Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 8 octobre 2024. Aujourd'hui, encore un peu de vulgarisation, ça j'aime bien en ce moment. On va parler encore des polluants éternels, puisque je vous avais parlé de la fermeture de l'usine Solvay à Salindres. Il y a eu une manifestation ce week-end, on va en faire un petit point un petit peu sur ce qui a pu s'y dire. Parler encore un petit peu de la ZAD de l'A69 qui n'existe plus, il n'y a plus d'écureuils perchés dans les arbres. On va faire un petit peu de debunking de ce qui se passe sur internet avec la question des boomer traps. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah peut-être que justement faut que vous écoutiez. Et qu'est-ce que j'ai noté encore? Encore une histoire de champignons, tiens, comme la semaine dernière. Les champignons, des découvertes incroyables sur la vie. Mais avant tout cela, des nouvelles de la pollution minière qui touche une bonne partie du territoire. Notamment, je vous ai déjà parlé souvent des communes de Saint-Félix-de-Palière. Et bien là, c'est plutôt la commune de Durfort qui est justement le sujet de ce courrier. Un extrait, de la lettre ouverte, donc de la newsletter de l'ADAMV. C'est l'Association pour la dépollution des anciennes mines de la vieille montagne, qui est maintenant une association plutôt d'information et de sensibilisation sur ce sujet, voire même d'expertise. Elle est donc en état d'alerte et effectue une veille sur tous les événements qui sont liés justement à cette situation de l'après-mine sur le piémont Sévenol. Vous le savez sûrement, il y a eu de nombreuses mines qui ont été fermées et remises dans un état plus que moyen, on va dire, avec notamment beaucoup de pollution maintenant des nappes phréatiques et du sol. Donc un très gros dossier dont on a déjà parlé plusieurs fois à cette antenne et que l'ADAMVM, c'est le nom de l'asso, eh bien suit de très près. Elle a par exemple participé au dernier CSI qui s'est tenu à la Croix de Palière le 26 août dernier. Alors un CSI, je vais vous expliquer ce que c'est parce que c'est important. C'est un comité de suivi et d'information. C'est donc un groupe de suivi et d'information qui est organisé par la préfecture du Gard, dans le but de faire le point de la situation avec justement les différents acteurs impliqués ou impactés par la situation environnementale de ce qu'on appelle l'après-mine. Ça va être par exemple les services de l'État avec la DREAL, l'ARS pour ce qui est de la santé, évidemment les maires de toutes les communes concernées, le député de la circonscription, Umicore, donc le nom de l'entreprise qui exploitait le site, qui est belge, et les associations mobilisées sur le terrain. Une espèce de panel où il y a un petit peu tout le monde concerné donc dans ces CSI. Justement, il y a eu un CSI 26 août dernier. Le maire de Durfort a infirmé les habitants de la commune donc qu'une réunion s'était déjà tenue le 8 août précédent avec la sous-préfète, la société Umicore, l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, et la DREAL, ainsi que les élus. Et donc, c'est le cas du village de Durfort qui a été évoqué au cours de ce CSI du 26 août, qui devait parler pourtant de la Croix de Palière. Vous allez voir pourquoi on parle pas justement, il n'y a pas un CSI exactement à Durfort. Le directeur de la DREAL, lors de cette réunion, a d'ailleurs expliqué sa préoccupation sur la commune de Durfort, qui est pour lui plus inquiétante que celle de la Croix de Palière. Il a dit ça, bon, c'est la Croix de Palière, c'est pas très grave, il a fait une faute. Alors, cette situation donc, de la commune de Durfort a été évoquée, et la dame VM a fait des questions justement sur différents points. Justement, pourquoi n'y a-t-il pas de CSI consacré aux communes de Durfort et de Fressac? Parce que si Durfort et Fressac étaient intégrés dans les CSI qui existent déjà sur les communes de Saint-Félix, Toiras, Tornac et Anduze, bah visiblement ça ne va pas se faire. Donc il n'y a pas de CSI spécialisé pour les communes de Durfort et Fressac. C'est ça qu'il faut retenir pour l'heure actuelle. Et ils ont aussi demandé des nouvelles d'une étude de le bureau d'études Géodéris de 2016. Il y avait eu des documents préparatoires qui avaient été faits à l'époque. La sous-préfète leur a répondu qu'ils n'avaient pas ce document. parce qu'en 2016, un courrier donc, de la mairie de Durfort disait attendre en tout cas les résultats de cette étude Géodéris. Les représentants de ce fameux Géodéris et de l'Adréal ont confirmé donc que l'étude avait été tout simplement abandonnée, puisqu'ils étaient obligés, vu leurs faibles moyens, de concentrer leurs études sur les communes de Saint-Félix, Toiras, Tornac et Anduze. Et disent-ils, ce sont les communes où la pression médiatique et associative était la plus forte, sous-entendu, donc Durfort est passé à la trappe. Les sites donc de Durfort et de Fressac ont été abandonnés délibérément depuis 2016 pour ce qui est des expertises scientifiques et aussi du suivi administratif, ce qui explique qu'il est maintenant trop tard justement pour qu'un CSI soit mis en place. Donc voilà, ça pose un problème. Donc ce sont des communes dont les situations sont traitées, on va dire, en périphérie d'autres organisations de ce type. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a une réunion ce jeudi 10 octobre, justement au foyer communal de Durfort à 19h. C'est une invitation qui est faite à travers ce petit extrait de la lettre d'info de Adam VM. Vous, si vous êtes citoyen justement de ce territoire, vous êtes invité à vous y rendre, puisque c'est une réunion publique. Il y aura donc les municipalités, les représentants de l'ARS, l'Adréal, Umicore et de la sous-préfète. Les élus de Durfort ont assuré qu'il y aurait un micro qui circulerait pendant cette réunion et que justement les membres de l'association Adam VM ainsi que les habitants de Durfort et de Fressac pourraient donc prendre la parole. Voilà, on en saura donc peut-être plus sur la situation de ces communes une fois que la réunion sera passée. Si vous souhaitez justement avoir des infos sur tous ces points, je vous invite à écrire à Adam VM et à vous mettre sur le mailing list de leur lettre d'info. Il y a différents articles qui sortent de temps en temps. Vous pourrez donc un petit peu faire le point sur cette situation très très complexe et qui ne relève pas d'ailleurs que du seul secteur local, puisque partout en France, il y a eu beaucoup de mines. Et donc ce qui se passe ici, là, sur le territoire, est assez intéressant parce que ça peut faire jurisprudence. Et puis il y a des solutions aussi de dépollution qui sont proposées notamment par ces associations qui font un petit peu le boulot qu'aurait dû être fait par soit les autorités, soit en tout cas les industriels de l'époque. Allez, on reste dans la thématique industrie et pollution locale, puisque je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est l'usine Solvay de Salindres qui va fermer. Ce samedi, plus de 400 personnes ont manifesté donc contre cette fermeture annoncée. Solvay, c'est l'unique site chimique européen dans sa spécialité, qui fait notamment les PFAS, les fameux polluants perfluoro, tout ça, éternels. Il avait donc notamment été accablé, ce site, par des révélations de rejet de polluants éternels. C'était notamment Génération Future, l'association, qui avait publié ça. Toutes ces personnes, anciennement travailleurs et proches, sont venues manifester ce samedi contre l'annonce faite donc par les autorités qui a été faite le 24 septembre dernier, à savoir que la production chimique serait arrêtée dès l'an prochain. Et donc en octobre 2025, normalement, 68 postes auront été supprimés. La nouvelle est tombée pour tous comme un couperet et personne ne s'y attendait. C'est ce qu'on peut lire dans le reportage qui a été réalisé par le magazine Reporter qui était sur place. Un représentant syndical CGT de l'usine d'ailleurs est interviewé, Enzo Ferrucci. Il y a environ 2 mois, dit-il, on a encore eu un discours de notre directeur qui nous disait de nous challenger et qu'on allait produire plus. Pareil pour le maire adjoint de Salindres, Jean-Luc Giblin. On a le sentiment d'être trahi par cette entreprise qui avait réuni les élus il y a quelques mois et qui avait dit « nous resterons là ». Cette affaire attise donc d'autant plus la colère que Solvay a fait le petit bénéfice de 588 millions d'euros en 2023. Et ce, vous le savez, dans un territoire où les usines ferment les unes après les autres. On est donc, si vous ne connaissez pas le territoire, on est à peu près au nord-est de Alès. Il apparaîtra donc peut-être quasi impossible de retrouver un emploi équivalent en termes de salaire ou de compétences pour ces salariés, qui pour la plupart ont eu des longues carrières là-bas et donc qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Quant aux autres sites d'ailleurs de l'entreprise Solvay, on a La Rochelle, Dombasle, Collonges. Tout ça n'est donc pas à côté, explique le délégué CGT Damien Hollery. Sans compter d'ailleurs que sur place, Solvay fait vivre des sous-traitants, participe donc aussi à l'économie locale. Certaines entreprises sous-traitantes locales ont des emplois qui sont 100% dédiés d'ailleurs au groupe Solvay. C'est une bonne centaine d'emplois donc de plus qui risquent d'être impactés en plus de cette fermeture et ainsi aussi les commerces et les services publics, souligne Ghislain Chassary, qui est maire de la commune voisine de Rousson. Donc une très forte inquiétude sociale, vous l'aurez compris. Mais à cela s'ajoute celle aussi pour la santé, notamment des travailleurs et des riverains de l'usine. En février dernier, c'est l'association Génération Future ainsi que d'autres médias d'investigation qui révélaient les rejets massifs de TFA dans l'environnement. Le TFA, c'est une des substances qui est produite sur place et un de ces fameux polluants éternels que sont les PFAS. Les rejets se faisaient dans des cours d'eau juste à côté de l'usine et donc potentiellement ensuite dans les nappes phréatiques et les terres agricoles. Eh bien, Solvay justifie sa décision d'arrêter la production chimique à Salindres. D'une part par une forte concurrence internationale, principalement asiatique, sur ces fameux TFA, ce sont des acides trifluoroacétiques, et les PFAS, ça veut dire substances perfluoroalkylées, donc des importations qui viennent principalement de Chine par exemple, et ils expliquent que ça nécessiterait aussi d'importants investissements qui ne seraient pas justifiés donc, au regard de la performance du site de Salindres des dernières années. Donc sous-entendu, le site ne produit pas assez et on va pas commencer à équiper tout ça pour que ça soit aux normes environnementales, ça vaut pas le coup, on préfère importer de Chine. Ces arguments n'ont donc pas convaincu notamment le représentant du personnel, Sofiane Anous, qui explique qu'il réfute complètement l'argument économique. Pour lui, c'est simple, Solvay cherche à fuir ses responsabilités et s'en va parce qu'il ne peut plus polluer sur place en silence. Tant qu'il n'y avait pas de normes de rejet sur ces PFAS, dit-il, on a produit tant qu'on pouvait, et maintenant qu'il commence à y avoir des normes plus restrictives, légitimes pour la protection des gens, on arrête. Il se circule par exemple dans les infos une étude sur des lapins exposés au TFA, enfin des lapines plus exactement, qui ont montré que ces animaux, suite à ces expositions, avaient des malformations sur les yeux et le squelette des bébés lapins qui sont mis au monde. Et ayant appris cela, dit-il, on se refait le film. Notamment, il évoque le cas de pas mal de collègues qui ont eu des enfants malades, deux fausses couches tardives à quelques mois d'intervalle, ou avoir travaillé sans protection au niveau de mètres cubes de ces produits. Les salariés donc, qui ont été rencontrés par le journaliste de Reporter craignent la double peine, donc d'une part que Solvay s'en aille en supprimant les emplois, et donc le chômage, en laissant aussi le personnel et les riverains seuls face aux conséquences de cette pollution. Notamment le délégué SAGT, ça s'interroge. Si par malheur, dit-il, des maladies ou des cancers se déclarent dans 10 ou 15 ans, comment ça se passe? Alors, le plus il y a une petite feinte, c'est que Solvay a dit qu'il ne s'en allait pas totalement. Il laisse quelques salariés au sein du groupement d'intérêt économique, le GIE. C'est le groupement qui gère le site de l'usine avec d'autres entreprises qui, elles, vont rester présentes. Mais, explique-t-il, c'est parce qu'il n'y a plus personne de Solvay du jour au lendemain, ils devront dépolluer immédiatement le site, et ça représente un énorme coût. Donc garder du personnel sur place, ça permet de ne pas avoir à dépolluer, malin tintin. Alors, ils avaient notamment, ce syndicaliste, chef du personnel, avait obtenu récemment que tous les salariés puissent avoir des prélèvements d'urine et de sang pour étudier leur exposition aux PFAS, donc c'était quelque chose qu'il avait obtenu de sa direction. Ça devait se faire là, dit-il, mais maintenant, tout est en stand-by. Donc voilà, peut-être des analystes qui devront faire de leur propre côté, avec l'aide peut-être d'associations, justement. Les politiques locaux, eux, sont un petit peu plus frileux à l'idée de parler de cette histoire de pollution et d'environnement, parce qu'ils préfèrent dire que chez eux, il fait bon vivre. Malgré, en tout cas, toutes ces perspectives qui se bouchent, Sofiane, donc le chef du personnel, a encore des rêves pour son usine, lui, et il aimerait qu'il en sorte d'autres produits par le futur, dont la dangerosité ne ferait pas polémique. On voudrait, dit-il, que le site soit nettoyé, et qu'on reparte sur une usine plus propre avec un impact environnemental le plus faible possible. En tout cas, les négociations sont toujours en cours avec le groupe, à savoir donc un petit peu plus tard ce qu'en diront notamment les autorités régionales. Au niveau des luttes écologiques, c'en est fini de la ZAD du Verger, une des dernières ZAD, ultime bastion, même on peut dire, de la résistance sur le chantier de l'A69, pour ce qui était en tout cas de la résistance sur le terrain. Il n'y a donc plus d'écureuils dans les arbres. C'est hier, le 7 octobre au matin, que la gendarmerie a expulsé ses derniers opposants. 15 d'entre eux ont été interpellés. On est sur la commune de Verfeil, toujours en Haute-Garonne. Et c'était Lisa qui était une des dernières accrochée à la branche de son noyer. Elle avait fait une cabane et tentait donc encore hier de résister aux forces de police qui voulaient la déloger de son arbre. À plusieurs centaines de mètres de là, des photographes mitraillaient la scène. Elle était perchée dans sa cabane depuis 3 semaines pour empêcher donc les travaux de l'autoroute A69 ainsi que 4 autres de ses camarades. et se sont fait déloger par des hommes à pied, puisqu'ils ont fait des énormes buttes de terre pour venir atteindre le haut des arbres. Ouais, c'est assez dingue. Cette opposante à la 69 a fini par descendre, acculée par la gendarmerie, elle-même bien aidée par les ouvriers du concessionnaire NGE à Tosca. Depuis le 4 octobre dernier, ces derniers construisaient, donc je vous le disais, avec des pelleteuses, des bulldozers et des camions bennes, une énorme butte en terre pour que le sol arrive au niveau des cabanes, perché à une dizaine de mètres du sol, et donc arrêter de secouer les arbres avec leurs pelleteuses, comme ça avait été le cas il y a quelques, je crois, un petit mois, et ils ont même fait tomber des opposants par terre. Le soir même, donc, les deux derniers noyers qui empêchaient la poursuite du chantier de l'autoroute A69 étaient vidés de leurs occupants. Le tronc recouvert d'une imposante butte de terre. Ils seront abattus dans les prochains jours et les engins du concessionnaire pourront terrasser ce terrain. Celui, donc le jardin, qui était attenant à une maison qui habitait jusqu'à il y a peu de temps une famille, donc, et ainsi qu'une centaine d'arbres avec un riche écosystème. Les autres opposants qui étaient réunis depuis le 20 septembre en soutien à ces écureuils sur un terrain attenant ont dû partir aussi. Donc un peu avant 18h hier, les 5 dernières écureuils, c'était des filles, étaient toutes descendues de leurs arbres et 2 d'entre elles étaient placées en garde à vue pour avoir refusé de donner leur identité. À savoir qu'elles étaient très affaiblies puisqu'elles mangeaient à peu près, depuis qu'elles étaient perchées là-haut, la moitié des rations qui sont normalement préconisées pour la survie, hein, 900 kcal par jour. La Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs Midi-Pyrénées, s'inquiétait dans son dernier rapport de cette stratégie d'attrition, c'est-à-dire d'affamement, puisque les forces de l'ordre limitaient très fortement le ravitaillement de ces écureuils en nourriture pour les obliger à descendre. Hier, donc, une ordonnance au matin, c'est une ordonnance délivrée par le tribunal administratif de Toulouse, à la demande du préfet d'Haute-Garonne, qui avait permis aux gendarmes d'expulser tous les opposants au sol. 13 d'entre eux sont placés en garde à vue à la suite de l'opération. Mais pour eux, ce n'est qu'une bataille de perdu, mais pas la guerre. On est enthousiaste pour la suite, affirmait donc un de ses opposants. Il y a de nombreux procès à venir et il y a plein de nouvelles choses à imaginer pour contrer ce projet. Et oui, car ce n'est qu'un combat. Continuons la lutte, comme on dit.
Une dictature, comme vous y allez.
Internet, c'est l'enfer. Un petit peu de pédagogie numérique pour ceux qui maîtrisent peut-être moins les codes de l'Internet. Je vais vous parler des boomer traps. C'est pas tout nouveau, mais ça fait c'est un petit peu en train d'envahir tout ça. Donc, il y a notamment un article trouvé sur le site Monsieur Mondialisation, je crois qu'on dit, qui explique un petit peu, qui décrypte cette nouvelle tendance, notamment sur les réseaux sociaux. Les boomer traps, ce sont des millions de fausses photos, des photographies générées par IA, donc l'intelligence artificielle, qui sont publiées chaque jour sur Internet. Et ces images sont spécialement conçues pour cibler des personnes facilement influençables, notamment les plus âgés. C'est pour ça qu'on parle de boomer traps, donc des pièges à boomers. Vous les avez peut-être déjà vus, hein, si ça vous arrive d'aller surfer notamment par exemple sur Facebook ou Instagram. Peut-être même en avez été-vous victime sans le savoir. Ce sont des images donc générées par IA, des photos souvent plus vraies que nature, plus ou moins, qui se passent sous mes yeux. Par exemple, à titre personnel, sur mon fil Facebook, j'en vois de plus en plus, avec des petits messages. Souvent, ça va être des vétérans à qui il manque une jambe, ou des gâteaux d'anniversaire incroyables faits par des petits-enfants, ou des filles à l'allure de mannequins, mais qui sont en train de faire la guerre ou autre chose, qui se plaignent de ne pas être assez jolies. Tous, en tout cas, se plaignent de ne pas avoir assez de likes ou de j'aime, ou qui disent que voilà, dans le monde de l'image, eux n'auront pas de commentaires. On a même carrément des photos de chiens qui demandent à ce qu'on leur souhaite leur anniversaire. Et bien, le pire, c'est que les gens le font. Hein. Il y a 10, 20, 30 000 commentaires de gens qui disent « Bon anniversaire, mon toutou !» Un cas en particulier est cité dans cet article. C'est une photo, par exemple, d'une toute jeune femme au trait de modèle. Hein. C'est quand même toujours des gens très parfaits, puisque ça a été fait par IA, habillée en tenue militaire. Elle fait un selfie au milieu d'un troupeau de moutons. Et cette image s'accompagne d'un texte misérabiliste qui invitant à la soutenir. Elle se dit traditionnaliste et se sacrifiant pour ses animaux. Une image, donc, je rappelle, totalement fausse, générée par un outil type Midjourney. Ça prend 2-3 secondes. Hein. Vous écrivez « femme au milieu des moutons », pof, ça sort. Et pourtant, donc, ces fausses photos sont relikées, partagées, recopiées des centaines de fois sur Facebook, avec des pages dont très différents. C'est pas des personnes même qui font ça, ce sont des pages, on va voir un petit peu pourquoi. Et je vous le disais, des centaines de milliers de likes et de commentaires à chaque fois, et souvent d'ailleurs en français, vous pourrez le voir. Les commentaires, eux, sont bien réels, même s'il y a quelques théories qui disent que peut-être ce sont juste des robots qui parlent aux robots, mais ça, bon, faudrait faire une autre étude. En tout cas, il y a plein de gens qui se laissent avoir. Et donc, ces commentaires, c'est du temps de cerveau disponible. Hein. générée par la fausse photo pour les publicitaires de la plateforme, car oui, c'est bien de ça dont il est question. Un constat émerge, donc je vous le disais, de ces réactions, ce sont principalement des personnes âgées qui répondent, c'est pour ça qu'on dit génération boomer, une tranche d'âge qui souvent n'est pas initiée aux évolutions technologiques récentes et aux pièges qu'elles représentent. Ceux qui génèrent ces fausses images en ont donc parfaitement conscience, hein, que ce soit en France, mais aussi en Asie et surtout aux États-Unis. Ces images, elles ont toutes un point commun dans leur stratégie. Elles visent des personnes qui sont susceptibles de réagir de manière très affective. Sans recul critique, on fait appel là à l'émotion. C'est pour ça qu'il y a des références, par exemple, traditionnalistes, aussi pastorales, religieuses, identitaires, sexistes, nationalistes et ou misérabilistes, genre sous format « c'était mieux avant », tout ça en préservant une forme d'esthétisme qui est propre au domaine de la pub. Le texte qui accompagne ces images est généré également par une intelligence artificielle, étudiée pour maximiser les réactions des utilisateurs. Là, je vous renvoie vers un lien, j'ai pas été non plus jusqu'au bout parce que c'était assez long. Ils parlent de réactance sur pas mal de médias, on parle de réactance. Allez voir ce que ça veut dire, c'est justement le fait de susciter des émotions pour faire réagir les gens à chaud. Un terme est né donc pour définir ces images, c'est « boomer trap » et ça fait mourir de rire en tout cas les plus jeunes qu'on se laisse avoir et qu'on clique et qu'on répond en souhaitant joyeux anniversaire à des robots. Ce phénomène a en tout cas pris une ampleur mondiale, il est devenu incontrôlable et souligne justement peut-être la scission profonde qui consume le cœur de la population. Avec ce tsunami inarrêtable d'images plus loufoques les unes que les autres, hein. Ça peut être des petits enfants africains qui ont fait une moto en cornichon, ou des trucs complètement dingues. D'ailleurs là, avec la dernière tempête aux États-Unis, je crois qu'il y a eu des fausses images de cyclones, hein, une proportion incroyable de fausses images qui a circulé sur les réseaux sociaux et des vidéos aussi. Le faux est donc devenu banal et des masses de millions d'individus alimentent cette supercherie. Alors, il y a évidemment un enjeu financier, je vous le disais, les publics avec notamment le côté publicitaire, mais il y a aussi des enjeux peut-être sociétaux, parce que pendant que tous ces fakes occupent l'espace, les vraies publications sérieuses, les informations de fond, sont dégagées par les algorithmes, puisque vous le savez, plus une publi crée de réactions, plus elle monte dans vos moteurs de recherche, donc plus il y a de commentaires, de likes, etc., plus cette publication prend de la valeur sur Internet. C'est en effet ainsi que le modèle des réseaux sociaux est conçu pour alimenter donc peut-être le faux et le vide intellectuel. On peut parler de la loi de Brandolini. C'est une loi qu'on appelle aussi le principe d'asymétrie des baratins. C'est un procédé selon lequel la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des sottises est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. En gros, c'est 10 fois plus compliqué et énergivore d'aller essayer de démonter, par exemple, une théorie sur la Terre plate, que de la produire. On peut écrire une connerie, puis après, boum, ça crée des tempêtes sur Internet. Donc, pour chaque petit mensonge médiatique facilement affirmé par un éditocrate, et là, on va revenir sur les médias traditionnalistes, par exemple Pascal Pro ou Hanouna sur CNews, ils fonctionnent vraiment à ça, ça crée du buzz, ça énerve. Eh bien, pour essayer de venir en face et de rétablir une autre vérité, ça prend énormément d'énergie, et notamment de temps de cerveau. Et en plus, le message n'arrivera probablement jamais aux oreilles des personnes qui ont reçu la fake news en premier, puisque l'audimat est aussi puissant que les médias concernés. Avec cette intelligence artificielle, le phénomène se décuple donc de manière exponentielle. Impossible d'aller démonter chaque fake sans rapidement s'épuiser moralement, puisque je vous le disais, en 3 clics, on peut créer des fakes très facilement avec n'importe quelle petit logiciel de génération d'images, alors que vous, pour contrer ça, c'est du vrai cerveau qu'il faut. Le contenu sérieux, donc, ne bénéficie d'aucune viralité. C'est pour ça qu'Internet a visiblement peu d'avenir pour améliorer la condition humaine sur la planète. Tout ceci génère un contexte explosif, hein, que des groupes politiques, notamment, utilisent volontiers pour répandre à large échelle des valeurs dans un groupe social visé, notamment, pour ce qui est des plus anciens, les valeurs réactionnaires. Il a été démontré d'ailleurs plein de fois que dans les pays développés, c'est la population âgée qui va dicter l'agenda politique, nos hommes politiques notamment, et les gens qui votent pour eux. Selon les statistiques, ceux-ci d'ailleurs ont tendance à voter très à droite. Si on regarde le premier tour des législatives, le RN a pu compter sur 40% d'électeurs âgés de 50 à 59 ans, et un votant sur 3 au moins 70 ans. C'est donc une cible de choix pour des mouvements politiques réactionnaires qui ont compris que les réseaux sociaux étaient un moyen direct d'atteindre leur cible, quitte à utiliser d'outils de manipulation pour y parvenir. Un danger donc sur le terrain politique est très déséquilibré. Car en effet, on pourrait dire que à droite et à gauche, c'est kiff-kiff. Eh bien, ce n'est pas le cas dans les faits. Hein. Internet est plutôt, penche plutôt à droite et va plus facilement, notamment en suscitant la colère, favoriser ce type de contenu. Pour que ces fausses images IA soient virales, elles doivent nécessairement inciter un phénomène immédiat, donc de réactance, et ce mécanisme ne s'active pas dans les mouvements humanistes, et notamment parce qu'il vise aussi une population plus jeune et plus informée sur les nouveautés technologiques. Alors, pourtant, sur ces cas de fausses images, aucune d'entre elles ne parlait... aucune d'entre elles ne parlait de valeur sociale, c'est une manière de confirmer, c'est aussi par l'absence de certains contenus qu'on peut tendre d'un bord ou l'autre. Des conclusions importantes donc pour Monsieur Mondialisation à tirer de cette observation, car à l'échelle d'une nation, disent-ils, le danger démocratique du phénomène est réel. Concrètement, les pages qui publient ces boomer traps n'ont peut-être pas d'ailleurs un objectif politique, hein, c'est tout simplement pour faire de l'argent en visionnant, en ayant plein de commentaires. Tout à fait, enfin je vous explique vite fait, les pages qui vont récolter ces likes, sur lesquelles vous dites par exemple « Bon anniversaire mon toutou », seront revendues ensuite sur un marché de l'influence à de nouvelles marques. Il suffit juste de renommer la page et on a donc 30 000 personnes prêtes à recevoir un message publicitaire et on peut donc démarrer une activité, revendre cette page ou la louer à n'importe quel groupe qui souhaite faire de la pub et c'est comme ça qu'après vous vous retrouvez avec des pubs que vous ne souhaitiez pas et vous êtes considéré comme le pigeon dans l'histoire. Il faut aussi noter quand même que ces endroits, ces commentaires sont aussi des super terrains de jeu pour ceux qu'on appelle les brouteurs. Ce sont les pirates de l'internet qui cherchent à vous arnaquer, qui chassent leur proie dans les commentaires de ces publications. À savoir que ces personnes facilement influençables, hein, qui expriment leurs émotions de manière tout à fait innocente comme ça sous une photo, ont plus de chances de tomber dans un piège sentimental que d'autres. Les fake intelligence artificielle apparaissent comme autant de filets qui capturent les internautes influençables à vaste échelle. On recommandera donc aux novices d'avoir un esprit critique activé en permanence devant les images et les vidéos. Vous pouvez par exemple regarder les détails de l'arrière-plan souvent sur IA. Eh bien, il n'y a pas trop de détails fignolés à l'arrière. Les personnages n'ont plus 6 doigts, donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, souvent c'est dans le grain aussi de la peau, le côté un peu lisse. L'erreur serait d'observer une photo dans sa globalité et de réagir à l'affect trop rapidement. Sur les réseaux comme en société, c'est un espace politique inévitablement. Nous sommes donc la cible de manipulation, qu'on le veuille ou non. Voilà, et l'article termine en disant qu'un média honnête va préciser son orientation politique. Ceux qui ne le font pas sont toujours un petit peu susceptibles de nous manipuler. Avis à tous les apolitiques, ceux qui disent qu'on ne fait pas de politique.
Je fais what? Mais d'où ça sort, quoi? D'où ça sort?
Allez, on reste un peu dans les faits scientifiques. La semaine dernière, je vous ai parlé de champignons, et du coup, l'algorithme m'a vraiment ciblé avec ça, et donc je suis tombé sur une autre info qui m'a bien plu. C'est dans Science et Vie que ça se passe, et on parle de fourmis qui auraient cultivé des champignons après la disparition des dinosaures. Alors, vous le savez sûrement, la disparition des dinosaures serait la conséquence de la chute d'un astéroïde géant sur Terre il y a 66 millions d'années, en tout cas une des principales causes, le symptôme principal étant que le nuage s'est élevé dans l'atmosphère et a donc privé de lumière pendant quelques années toute la planète. Eh bien, ce qu'on sait moins, donc, c'est que la quantité de poussière phénoménale qui a été projetée dans les airs a assombli le ciel, je vous le disais, pendant 3 années, et donc la photosynthèse est devenue quasiment impossible. De ce fait, la température a chuté et de nombreuses espèces se sont éteintes. Mais il s'est produit donc cet autre événement remarquable, à savoir donc que dans l'ombre de ce qu'on a appelé la cinquième extinction de masse, eh bien les fourmis, elles, ont inventé l'agriculture, tout simplement. Plus précisément, donc dans un monde où les plantes avaient donc du mal à pousser et où les champignons proliféraient, eh bien les fourmis ont commencé à cultiver des champignons pour assurer leur survie. La conclusion de cette étude qui vient de paraître donc dans Science, c'est une étude génétique qui a été menée sur par des entomologistes, donc des spécialistes des insectes, sur 276 espèces de fourmis, dont certaines agricultrices, et aussi 475 espèces de champignons. Ils arrivent à retracer des liens entre ces deux espèces. C'était une énigme pour eux, justement, cette relation étroite entre les champignons et les fourmis. La relation est tout simple, hein, c'est que les fourmis collectent des champignons, disséminent leurs spores, donc elles les sèment, et elles les défendent, hein, contre les maladies ou la sécheresse dans une relation donc, de bénéfices mutuels. puisque au final, les insectes, aux petits soins, finissent par se nourrir des champignons. Différents indices paléontologiques avaient déjà montré l'explosion justement du royaume des champignons il y a environ 66 millions d'années, donc pile au moment de la grande extinction, notamment celle des dinosaures. On imaginait que la relation avec les fourmis avait pu évoluer à ce moment-là, mais il a fallu donc attendre une confirmation scientifique, notamment avec les traces que cette relation de symbiose a laissée dans le génome des champignons. Et les chercheurs ont aussi d'ailleurs identifié un autre moment clé, plus proche de nous, il y a 27 millions d'années, où les fourmis auraient inventé une forme d'agriculture supérieure. À ce moment-là, d'ailleurs, le climat s'est aussi refroidi, mais il est devenu plus sec. Les prairies se sont donc étendues au détriment des forêts humides. Et pour garantir un taux d'humidité optimal pour la croissance des champignons, les fourmis les auraient installés dans leur nid et les auraient nourris avec des morceaux de feuilles, par exemple, comme le résume le journal américain The Smithsonian Magazine. Les fourmis ont créé leur propre jardin à une époque où nos ancêtres se frayaient encore un chemin dans les arbres à la recherche de fruits. Hop, pardon, j'ai un petit bug sur mon ordi. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Ah, ça part pas. Ah, si.
C'était vraiment très intéressant.
Allez, 13h07, il est largement l'heure de s'arrêter. On a parlé de champignons, du coup je vous laisse quand même en musique avec un morceau issu du dernier album de Björk. Je vous invite très fortement à aller regarder les clips, ils sont complètement hallucinants. Le morceau s'appelle Fossora et il est question aussi, je crois, de champignons et de symbiose. À jeudi pour d'autres nouvelles du monde.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution,
info@radioescapades.org.